Je peux sortir là. Allez là.
Sortez, ça fait trop du bien. Ça dégourdit les jambes. Allez-y.
J'adore ça. Moi je sors tout le temps.
Mais putain, sortez de chez vous.
Je sors encore plus.
T'avais la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Allez, tu chez Ferb, sortez.
Oui, franchement, c'est trop chouette. Ça rencontre des gens trop intéressants. Allez-y quoi.
Sortez.
Sortez.
Sortez, c'est
cool. Sortez les jambes.
Ok, vous voulez sortir?
Au chien bleu.
Vous
sortez.
Je suis chocolat,
Vous sortez tous avec nous.
Sors !
Et il est 16h sur Radio Campus Tours, le 99.5, et vous écoutez l'émission Sortez. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Juliette Margueri et Sofiatou Kosoko du Centre Chorégraphique National de Tours, le CCNT, pour nous parler du spot région et du spectacle fabulé de Sofiatou Kosoko, qui est à la programmation de cet événement. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que l'on peut, dans un premier temps, rappeler ce qu'est le CCNT et quels sont les objectifs de cet établissement culturel ?
Bien sûr, le Centre chorégraphique national, c'est un label qui a été créé en 1984 par le ministère de la Culture. Il en existe 19 en France, dont 2 en région Centre-Val de Loire, à Orléans et à Tours. Les CCN, ils ont la particularité d'être dirigés par un ou plusieurs chorégraphes. Et à Tours, c'est Thomas Lebrun qui est à la direction depuis janvier 2012. Ce qu'il faut savoir, c'est que les CCN, c'est un lieu dédié à la danse et que le projet ici à Tours est axé autour de 5 points. Le premier, c'est celui de la diffusion et la création que Thomas Lebrun a pour mission, donc, de créer et diffuser des pièces pour nourrir le répertoire chorégraphique. Et pour vous donner une idée, depuis sa nomination, donc, en janvier 2012, Thomas a créé 17 pièces et une 18e est en cours et sera présentée en janvier 2025. Un second axe, c'est celui du dispositif des artistes associés qui existe depuis 2016 et permet de soutenir des compagnies indépendantes grâce à une enveloppe financière fléchée à ce sujet qui nous permet en tant que structure d'accompagner les artistes nominés. Donc cette année, nous, on accompagne Michel Muret qui est à la tête de la compagnie Play située à Montpellier. Et donc, on les accompagne à la création en leur permettant d'avoir un accès direct au studio pour créer leurs pièces et aussi les aider à être programmés. Donc, ils font partie de notre entière programmation. Et d'une certaine manière, en espèce d'échange de bons procédés, les artistes associés viennent donner ça peut être des stages ou participer à la pratique amateur qui est en fait un troisième point de notre projet, c'est-à-dire la sensibilisation et la pratique donc amateur. Le CCNT, tout au long de la saison, mène diverses actions de sensibilisation en lien avec notre programmation pour permettre à toutes et tous de partager, expérimenter et échanger autour de l'art chorégraphique. Une grande partie de ces actions, et on a la chance de ça à Tours, c'est qu'elle est prise en charge par quelqu'un qui vraiment travaille au sein du CCNT pour donner ces ateliers auprès des tout-petits, parce que ça part de la crèche et ça va même jusqu'aux plus grands, les étudiants et même plus encore. Le quatrième, avant ça, on accompagne aussi à la création des compagnies. Grâce au dispositif de l'accueil studio, qui est une mission propre au CCN, la structure elle offre aux compagnies sélectionnées la possibilité de bénéficier d'un accompagnement financier pour créer leurs pièces et aussi matériel, puisqu'en général, elles sont accueillies en résidence chez nous. Et c'est un dispositif dont Sofiatou Kosoko, qui est là avec nous aujourd'hui, a bénéficié, par exemple, il y a quelques semaines, du 18 au 22 novembre, pour finaliser sa pièce. Et le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est celui de la programmation, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 19 CCN qui existent, on est seulement 4 à permettre une programmation auprès de nos publics. Et cette programmation, elle est ouverte à diverses pensées de la danse et à une pluralité des genres, à la volonté de notre programmateur, qui est Thomas Lebrun. Donc notre programmation, elle est construite autour de temps forts comme le Perfect Days, qui a lieu en général entre septembre et octobre et qui ouvre la saison. C'est un petit temps fort de quelques jours avec notre présentation de saison et quelques spectacles. Et elle est clôturée par le Festival Tour d'Horizon en juin, qui est lui un peu plus long, en général une quinzaine de jours, et qui rentre aussi dans cette dynamique de programmation diverse et variée. Et donc, entre ces deux temps forts, sont ponctués quelques spectacles et des rendez-vous réguliers qu'on appelle des heures curieuses, qui sont l'équivalent de sorties de résidence, on peut dire. Et donc, cette saison, mais je n'ai peut-être pas trop m'avancé, on a aussi un temps fort qui rentre dans cette programmation, qui est le spot région.
Et oui, on y vient tout de suite.
Exactement, du coup, le spot région, c'est le temps fort du CCNT qui met en valeur les artistes du Centre Val-de-Loire. Cette année, ça se passe du 10 au 18 décembre, c'est bien ça?
Absolument.
Et donc, pour le coup d'envoi, c'est aujourd'hui. Cet événement, qu'est-ce qu'il comprend?
Eh bien, je me permets de faire un petit bilan chiffré parce que c'est aussi important de mettre le point sur ce que ça permet. Ce spot, c'est de vraiment mettre en valeur ces compagnies qui sont installées en région Centre-Val-de-Loire. Aujourd'hui, on en compte une trentaine. Et donc cette année, c'est la 8e édition du Spot Région. Et jusque maintenant, le CCNT a pu accompagner 25 projets. Et donc là, cette année, on en accompagne 3 supplémentaires, qui sont celui de Raphaël Cotin, de Sophia Tokosoko et Johanna Lévy. Je ne sais pas si vous voulez que je parle de ces autres rendez-vous, peut-être.
Oui, tout à fait. Bah, pour revenir un petit peu sur l'histoire de ce projet, comment est-ce qu'il est né, donc le Spot Région, et depuis combien de temps est-ce qu'il existe?
Et donc, si mes calculs sont bons, je crois que la première édition, elle devait avoir lieu en 2016 ou 2017 à peu près. Et ça a été à l'initiative de Thomas Lebrun, notre directeur, qui a souhaité mettre en avant en fait, ces compagnies qui sont présentes sur le territoire et qui sont en général peu ou pas assez accompagnées dans leur création. Et c'est donc un temps fort où on invite le public déjà à découvrir ces créations, mais aussi les professionnels pour permettre à ces compagnies de tourner sur la suite de la saison.
On va pouvoir donc développer ce point plus tard avec vous, Sophia Tou et Fabulé. Quelles thématiques sont abordées dans les créations de cette année?
Alors, comment vous dire? Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir plusieurs points, plusieurs thématiques plutôt. Raphaël Cotin, donc, qui ouvre le spot le 10 et le 11 décembre, ce soir et demain à 20h. Il célèbre dans sa pièce la composition chorégraphique, si je puis dire, puisque en fait, sa pièce elle part d'un solo qui s'intitule « Quel est ce visage ?» qui a été chorégraphié par Christine Gérard en 2001 et qu'il a lui-même interprété en 2001. Et en fait, à partir de ce solo, il va en tirer des éléments, puisque ce qu'il faut savoir aussi, c'est que outre le fait que Raphaël Cotin est interprète et chorégraphe, il est aussi notateur à la BAN, qui est une façon en fait, d'interpréter la danse et de l'écrire. Et donc, à partir de ça, il va travailler sur ce solo et le transformer pour la faire devenir un quatuor, si je peux dire, à travers la composition chorégraphique, puisque ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Christine Gérard était sa professeure de composition chorégraphique au Conservatoire de Paris à l'époque.
Et donc, est-ce que vous avez des partenaires pour cet événement?
Oui, absolument. Ça fait une très belle transition pour pouvoir parler du deuxième et troisième projet qu'on accompagne, puisqu'on co-accueille avec la Pléiade, donc notre partenaire sur ce spot région, le spectacle de Johanna Lévy, qui s'appelle Jasmin et qui sera présenté donc le mercredi 18 décembre à 20h30 à la Pléiade, à la Riche, qui est donc la dernière création de la chorégraphe qui est installée pas très loin d'ici puisqu'elle est installée à Amboise. Donc je me permets de présenter la pièce puisque ce qui est intéressant ici, c'est que dans le travail de Johanna Lévy, on retrouve beaucoup de théâtre et de cinéma puisque c'est ce qui l'inspire beaucoup. Et c'est une matière qu'on va retrouver dans ce solo, puisque, en fait, on accompagné d'une bande-son un peu originale, pensée comme une musique de film, et d'un texte inédit de l'autrice et metteur en scène Tunde Deac. J'espère que je n'ai pas écorché son prénom. Johanna Lévy, elle va interpréter le rôle d'une femme qui vit dans une nuit sans fin. Et dans cette fiction, le jour, en fait, ne se lève plus. Et pour survivre, cette femme, elle va se créer une danse assez proche du rituel pour résister et garder espoir qu'un jour, le jour se lèvera. Et donc ça, on l'accueille avec la Pléiade, qui est un de nos partenaires assez réguliers, mine de rien, depuis ces dernières années, puisqu'il nous accompagne aussi sur le festival. Pardon.
Donc en parlant des actualités du CCNT, cette année, il y a aussi un gros projet qui a été lancé, c'est celui d'une installation dans de nouveaux locaux, en réponse à l'évolution de vos besoins. Donc on parle de plusieurs années avant que ce soit réalisé. Quelle est l'échéance de ce projet ?
Alors on nous a annoncé une livraison du bâtiment pour le premier semestre, si je ne me trompe pas, 2029. Pour l'instant, on ne peut pas vous en dire plus sur le sujet, puisque c'est encore en discussion. On travaille avec un jury pour trouver un cabinet d'architecte pour mener le bâtiment. Donc c'est encore quelque chose qui est naissant. Et qu'on espère voir assez vite, puisque c'est un projet qui est né il y a quelques années déjà et qu'on a hâte de voir.
Donc pour résumer, le spot région cette année, il est composé de trois créations, une de Raphaël Cotin, L'éloge des possibles, une de Johanna Lévy avec Jasmin, et une de Sofiato Kosoko, donc Fabulé. Je vous propose donc de faire une pause. Vous nous avez ramené donc des extraits sonores, des extraits du paysage sonore de cette création. Quel morceau souhaitez-vous nous présenter en premier ?
Alors, on peut peut-être mettre la partie 1.
Mm-hmm. Ouais. Donc ouais. Intitulé Machine.
Oui, exactement. Machine, a skill.
Machine, skill.
A skill.
A skill.
Killed the boy, you didn't just dream it. Yes. Buried him? Yes. You remember where? Yes. You buried him? Yes. You didn't just dream it.
Vous venez d'écouter un extrait du paysage sonore de la pièce Fabulé, proposé par Sofiato Kosoko. Alors, je rappelle que Juliette Marguerie et Sofiato Kosoko du CCNT sont présents avec nous. Sofiato Kosoko, Fabulé, c'est un spectacle mêlant performance et danse, dont les représentations sont le vendredi 13 et samedi 14 décembre, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est cela.
Il a été créé et co-construit avec la chorégraphe et danseuse Christine Cordet et l'artiste DJ Véronique Hubert pour une chorégraphie qui vient s'inspirer de la sororité et de la palabre. Quelles ont été les étapes de cette création de la pièce ?
Alors, Fabulé est une pièce qui a été créée, chorégraphiée et dont les textes sont écrits par moi-même. Mmh. Voilà. Christine Cordet est certes chorégraphe, mais elle est interprète dans la pièce Fabulée. Le morceau qu'on vient d'entendre précédemment a été composé en partie par la DJ Véronique Hubert. Ce sont donc Christine Cordet et Véronique Hubert, deux femmes que j'ai convoquées pour Fabulée, deux présences que j'ai rencontrées en partie ici à Tours. J'ai rencontré Christine Cordet à Tours dans le cadre du festival Rayon Frais, au sein duquel j'étais moi-même programmée en 2014, il me semble. Et préalablement, j'avais rencontré donc Véronique Hubert, en partie à Paris et en grande partie ici à Tours, dans le cadre d'une résidence que je faisais au Volapük. Voilà. Fabulée est donc une pièce qui m'est venue. J'ai pour habitude de dire que les choses, les idées nous viennent plutôt qu'on les a, elles nous appartiennent. Qui m'est venue à un moment où je me posais la question du dialogue et de nos capacités à s'écouter, à communiquer. Et suite à la mort du jeune Naël, je me suis posé la question effectivement, de ce dialogue. Et puis la palabre m'est apparue comme solution. Parce que je viens d'une famille où, quand il y avait des problèmes, on mettait carte sur table. Mon père avait l'habitude de nous réunir autour de la table. On appelait ça réunion familiale.
Ça m'arrivait, ouais.
Tout le monde tremblait. Tout le monde tremblait. Se disait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi, t'as pas fait ci, toi, t'as pas fait ça. Alors, voilà. Mais ça avait au moins ce geste-là, ces moments-là, avait la capacité de nous mettre en face de nos problématiques, de les disputer, de les discuter, de ne pas être d'accord et de repartir sur de nouvelles bases. C'est-à-dire que c'était vraiment des instants pour moi que quand je les revois aujourd'hui, je me dis, mais c'était déjà de la palabre, ça. Mmh. De la palabre, pas le point de vue exotisant qu'on a d'habitude vu par l'Occident. La palabre, oui, on dit ce qu'on veut comme on veut. Oui, certes, on dit ce qu'on veut, mais il y avait des règles.
Il y avait un certain ordre, en fait.
Un ordre, c'était vraiment des méthodes de gouvernance, en fait, sociétale. Donc, ça m'est vraiment, vraiment apparu comme ça. Et puis, lors de cet événement, donc la mort de Naël, je suis sortie de chez moi et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si on continue à s'entretuer, on va finir vraiment par tout s'exterminer. Et quelle est la solution? Est-ce que il est possible d'échanger, de dialoguer, de dire nos mots, M-O-T-S, M-A-U-X, M-A-U-X, pardon. Et donc, j'ai rencontré mon voisin de palier qui ne me parle pas d'habitude et qui était un peu dans le même état que moi. Et qui m'a regardé, qui m'a dit, mais ça ne va pas, il faut qu'on parle. Et donc, je me suis dit, j'ai bien raison de réfléchir à ça comme ça. Et je me suis posé la question autour de moi, quelles étaient les personnes avec lesquelles je pouvais dialoguer, me disputer, ne pas être d'accord et quand même continuer à avoir un lien. Et donc, ces deux femmes-là me sont apparues. Donc, je les ai convoquées dans Fabulée. Voilà.
C'est une composition entre performance et danse. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce format hybride ?
C'est pas une histoire de plaire ou de pas plaire. C'est juste la pièce qui a convoqué ce format-là. Parce que c'est vrai que rester dans un espace purement métaphorique me semblait déséquilibré.
Peut-être trop évasif par rapport au sujet qui est...
Oui, peut-être. Et puis, j'aime aussi beaucoup la radicalité. J'aime bien la capacité à dire. J'aime bien encourager cette capacité à dire, cette possibilité de dire les choses telles qu'on les ressent. Parce que je trouve qu'on a tendance à être... mais ça, c'est mon petit point de vue à mon niveau. On a tendance à vouloir alimenter les formes et les formats préexistants. Et je trouve que ça ne nous met pas au travail. Voilà. Donc, comment... je me suis dit, mais peut-être qu'avec Véronique Hubert et Christine Cordet, je peux me mettre au travail, vu qu'on a déjà commencé à se mettre au travail. Donc, forme performative, oui, aussi, comme espace de, entre guillemets, liberté, de pouvoir, à un moment donné, ouvrir et sortir de la contrainte. parce que la forme performative, dans le cadre de Fabulé, intervient par rapport à l'écriture chorégraphique à des moments où on sort de la contrainte. Et ces moments où on sort de la contrainte, quand je parle de contrainte, je parle là d'une écriture chorégraphique, hein, une écriture de gestes, hein, de gestuelle. M'a-t-on dit, Christine m'a dit, oh là là, mais c'est super fort, en fait, je peux faire ce que je veux, mais en même temps, il y a une contrainte. Hein. Moi, ce qui équivaut pour moi à, je peux dire ce que je veux, mais il faut quand même que je fasse attention à qui je parle, d'où je parle, et avec qui je parle et comment je parle. Voilà.
Et donc la sororité, le partage de territoire ainsi que la palabre, sont les thèmes principaux de ce spectacle. Ces notions de dialogue et d'échange transparaissent-ils totalement dans cette performance ?
Alors oui, pour ce qui est du partage d'espace, je me suis référée au Soul Train, qui pour moi est rien que le nom d'abord, Soul, âme,
Train.
Train, c'est quelque chose qui me parle énormément parce que j'habite en face d'une gare et puis parce que pour moi un train, soit ça ne bouge pas, soit ça avance, et quand ça avance vraiment.
Ça va vite.
Voilà. Notamment le TGV, enfin, quand il n'y a pas les grèves, en fait. Une petite parenthèse. Non, mais pour en revenir au Soul Train, cette question d'âme, d'entité et de présence me parlait tout à fait, parce que c'est une convocation qui s'est faite de cette manière-là dans Fabulé. Et la question des thématiques, pour moi, c'est vrai que je ne fonctionne pas par thématique. Comme j'ai un esprit qui est complètement en adéquation et affilié à mon parcours de vie, et que mon parcours de vie est un parcours très, très riche, parce que j'ai beaucoup voyagé comme petite fille de militaire et j'ai vu beaucoup de territoires, j'ai entendu beaucoup de langues différentes, je ne peux pas penser sans la complexité, en fait. Donc, une thématique en amène une autre. Ouais. Après, je fais le tri, bien sûr. Mais le partage de territoire, effectivement, existe entre Christine et moi à travers le Soul Train, mais tout à fait aussi à travers qu'est-ce qu'on fait sur ce plateau et comment on occupe ce plateau et est-ce que ce plateau nous appartient ou on est juste de passage. Donc, et aussi, la sororité, elle est... Est venue comme une évidence. Mais de quelle sororité il s'agit ? Parce qu'il y a sororité et sororité. Là, on est encore dans ces questionnements, ces réflexions de est-ce qu'on peut être ensemble ? Est-ce qu'on peut être trois femmes, une femme noire et deux femmes blanches ensemble et discuter et ne pas être d'accord ? Et agir et ne pas être d'accord ? Et échanger sur la musique et les ressentis, ce qu'on ressent et ne pas être d'accord ? Et quand même faire quelque chose ensemble. C'est ça qui m'intéresse le plus. Pour la question de la palabre, la palabre a inspiré mes textes. Plutôt que de signifier la palabre sur le plateau de manière repérable ou compréhensible, je me suis inspirée d'instants de palabre que j'ai soit vécu, soit entendu, pour écrire une matière textuelle, deux matières textuelles qui me paraissent être intéressantes à entendre aujourd'hui. Voilà.
Est-ce que dans votre parcours artistique, la sororité a toujours été présente ?
Oui, disons que j'ai grandi en partie au Danemark. Moi, j'ai découvert le féminisme au Danemark, hein, à l'époque où je vivais là-bas. Les femmes étaient très, très puissantes, très fortes. Et c'est après, quand je suis venue en France, j'ai découvert un autre type de féminisme, une autre manière d'envisager le corps de la femme, le corps des femmes, une autre manière d'envisager la place des femmes dans nos sociétés. Et il y a aussi en Afrique, oui, la sororité apparaît depuis mon travail avec Germaine Akoni, qui est une dame de la danse africaine qui a monté une école très importante sur le continent africain. Les premières rencontres avec des femmes que j'ai eues, c'était là-bas. C'était Women Voices of Africa. Il y avait un groupe de femmes américaines et afro-américaines. On réfléchissait déjà à comment faire pour que les femmes d'origine africaine puissent percer dans le milieu de l'art. Bien sûr, il y avait des différences, des disparités entre les anglophones et les francophones, parce que les anglophones sont vraiment dans le lobbying et tout ça, et les francophones sont un petit peu sur leur réserve. Faut toujours, elles ont toujours un peu peur, quoi. Faut toujours leur prouver que les choses sont possibles avant d'y aller. Il y avait des élans différents, et c'est vraiment là que je me suis dit, ah mais il se passe des choses sur le continent africain qui ne sont pas entendues ailleurs. Et des choses qui sont traitées différemment. Voilà. La sororité m'est apparue aussi, bien sûr, dans le contexte familial, avec mes sœurs, hein, bien sûr. Et puis aussi avec des hommes. Hein. ça peut paraître étrange, ce que je suis en train de dire. Mais moi, j'ai été élevée par un homme. Et c'était un homme qui était pour aussi que ses enfants fassent ce qu'ils ont envie de faire en prenant la responsabilité de ses actes. Voilà. Je songe ici à Latifa Labissi aussi. Je pense aussi à Robin Orlin. Je pense à plein d'autres femmes avec lesquelles j'ai pu aborder les questions du féminisme, des féminismes. De la sororité, la question se pose parce que le terme est aussi tellement galvaudé, tellement repris et défini de manière différente. Il s'agit pour nous, dans Fabulé, de la sororité décrite par Bell Hooks, qui pose la question de la négativité et de la positivité. De comment est-ce qu'il est possible de faire de nos parts négatives quelque chose de positif, ou même pas spécialement positif, mais qui se pose à l'endroit de la réflexion. Est-ce qu'on peut réfléchir de nos actes négatifs autrement que juste comme des actes négatifs, voilà.
Et là, donc la sororité, vous l'avez découverte dans d'autres pays, au Danemark, en Afrique, un peu aussi dans votre famille. Est-ce qu'aujourd'hui, de votre expérience, vous diriez que c'est quelque chose qui est appliqué et qui est véhiculé d'une bonne manière ?
Ouh, la question est intéressante. Je dirais que ça se passe par endroits. Je ne dirais que ça n'est pas encore assumé. Je dirais que le chemin, la route est longue. Je dirais que les femmes, entre elles, peuvent peut-être commencer à se regarder autrement qu'avec le regard, avec un regard de dominant, dominé. Enfin, le même regard qu'on reproche aux hommes, certaines femmes l'ont aussi. Je pense qu'il faut mettre les choses à plat. Si on veut mettre les choses à plat, il faut savoir ce qu'on veut vivre, comment on veut vivre et qu'est-ce qu'on veut transmettre aussi à nos enfants, parce qu'il s'agit aussi de ça. Voilà.
Du coup, il y a aussi tout un travail au niveau des costumes. On va repartir sur la pièce. Il y a tout un travail au niveau des costumes de Patricio Luengo qui sont sous forme de kimono asymétrique. Quelles réflexions il y a eu pour ces vêtements ?
Oui, alors Patricio Luengo est un costumier chilien avec lequel je collabore depuis une dizaine d'années. Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est d'abord son humilité. J'apprends énormément avec lui à ce sujet-là. C'est quelqu'un qui a fait un parcours remarquable, mais on entend très très peu parler. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les marionnettes. Il travaille avec des compagnies qui font des spectacles de rue. En Île-de-France, et c'est quelqu'un qui a une capacité à comprendre assez rapidement ce que je veux, là où je veux aller et surtout là où je ne veux pas aller. Cette histoire de kimono, elle traîne depuis une pièce qu'on avait faite en 2009 qui s'appelait Mouvement Lumière, où je lui avais demandé « Ah, mais tu peux pas nous faire des kimonos avec des sacs poubelles ?» Donc, il a commencé à confectionner ces kimonos-là. Et puis, c'est revenu dans Fabulé. Pour moi, ce manteau, cette parure, et c'est aussi cette protection de ces âmes qui arrivent sur le plateau C'est une manière aussi de les recouvrir, certes, mais de les protéger, mais aussi de dire un petit peu les chemins. Hein. On a essayé de construire avec les matériaux de couture les différents chemins qu'ont traversé peut-être ces personnalités. Attention, là, on va peut-être rentrer dans la confusion, parce que c'est quand même trois âmes qui sont sur un plateau. Trois présences donc, qui sont sur un plateau. L'une d'entre elles, la DJ, est une présence qui a déjà vécu ce que nous deux allons vivre sur le plateau. Donc c'est un spectacle performatif qui est construit comme... je ne parlerai pas de rituel ici, parce que pour moi, la scène déjà est un rituel. Faire de la scène, c'est déjà faire du rituel. Mais je parlerai de cérémonie, voilà, de cérémonie. Où là, en l'occurrence, les couleurs de ces manteaux, parce qu'ils sont très très lourds, ils ont été aussi cousus à la main. On ne le sait pas quand on le voit en tant que spectateur, mais il a cousu beaucoup de parties de ces manteaux à la main. Et c'est ça que j'admire chez lui, en tout cas. Il ne cherche pas la facilité. Voilà. Il met au travail les choses. Voilà, c'est ces costumes-là. Et puis après, on est dans des costumes très, très simples, par ailleurs, à d'autres moments de la pièce. Voilà.
Vous êtes danseuse et chorégraphe. Vous vous êtes formée dans différentes villes d'Europe. Quelles sont vos influences et vos inspirations ?
Alors, j'ai été formée à différentes techniques de danse. Qui sont des techniques qui sont très, très courantes, très connues, qui sont la danse classique. La technique Auguste Bournonville, qui est pratiquée beaucoup, beaucoup à l'Opéra Royal de Copenhague. J'ai été formée aussi un petit peu à la technique Balanchine, parce que j'avais une professeure qui était dans la compagnie Balanchine. J'ai été formée aux techniques de danse modernes, donc Graham, Horton, et un petit peu de Cunningham aussi, donc une technique contemporaine, et tout ça au Danemark. Mon influence première est une technique qui est considérée comme une technique de danse jazz, qui s'appelle la technique Luigi. Mais le fond de cette technique est très, très forte pour moi parce qu'elle apparaît de plus en plus fortement dans mon travail. C'est-à-dire que ça n'est plus du tout juste une forme ou un format. C'est le fond qui a créé cette forme qui surgit dans ma manière de réfléchir le geste. Il faut savoir que Luigi était un danseur dans les années 60 à Broadway, à New York, qui a eu un accident de voiture et à qui on avait prédit la chaise roulante à vie. Et il s'est remis à marcher. Quand il s'est remis à marcher, il s'est remis à danser. Et c'est quelqu'un qui a enseigné la danse à beaucoup, beaucoup de stars connues dans le domaine du show, voilà, aux États-Unis. Et c'est quelqu'un qui avait, comme vous dites, il avait un slogan. Vous ne dites pas slogan. On dit autre chose, on utilise une autre terminologie. Enfin, il disait « never stop moving ».
Un mantra ?
Un mantra, voilà, on dit mantra aujourd'hui. « Never stop moving ». Et je pensais, en recevant cette technique, que je recevais juste une technique de danse, mais en fait, je recevais cela, ce que je viens de dire, « never stop moving ». Et mon prof de danse, à cette époque, à Copenhague, donnait des cours, parce que je suis aussi pédagogue, donner des cours de danse à un public intergénérationnel, à un public déjà à des personnes en situation de handicap, à des adolescents, des enfants, des personnes âgées, voilà. Et il ne prétendait pas être un danseur soigneur, mais il l'était, voilà.
Parlons son. On en a déjà écouté un extrait. Quelle atmosphère sonore, quelle musicalité vous accompagne dans cette composition ?
Alors, la deuxième composition, peut-être on peut passer au troisième morceau, je crois que c'est le troisième morceau.
Oui, c'est ça, qui
morceau.
S'appelle donc Intermède Bal.
Voilà, exactement. Ouais. C'est un morceau que Véronique Hubert a créé en partie pour le bal littéraire, mais qu'elle elle a recyclé aussi pour Fabuler, et dans lequel il y a un morceau de Robert Henke, je pense.
Donc on écoute ça tout de suite. Ouais.
C'était un autre extrait de Fabulé proposé par Soufiatou Kosoko sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Vous écoutez l'émission Sortez. Et avec nous, Juliette Marguerite, Soufiatou Kosoko, qui est venue présenter sa...
Ça va aller.
Sa pièce Fabulé. C'est un spectacle, du coup, je le redis, mêlant performance et danse, dont les représentations sont le vendredi 13 et samedi 14 décembre. Je voudrais revenir sur une chose que vous disiez, percer dans le milieu de l'art. On dit très souvent percer dans le monde de la musique, percer dans la musique, dans le rap, dans la pop. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'où ça vient, ce percer dans le milieu de l'art ? Je ne savais pas que ça existait.
J'ai dit ça ?
Ouais.
Ah oui, j'ai dit ça.
Quand vous parliez de... Quand vous étiez à Paris avec une autre interprète, si je ne me trompe pas, vous disiez qu'il était possible de percer dans le milieu de l'art.
Ah, ça m'a échappé, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors du coup, percer dans le milieu de l'art, je ne sais pas comment, ça dépend comment les gens se placent. Mm-hmm. Moi, je me place à un endroit, je suis quelqu'un que j'ai été poussée à la périphérie tout le temps. Moi, je suis de l'époque où on allait auditionner, on lisait les avis d'audition, puis on allait auditionner. Il n'y avait rien sur Internet, il n'y avait pas Internet à mon époque. Donc, j'ai beaucoup passé d'auditions. Et ce qui était important pour moi, c'était de trouver du travail. L'histoire de percer, ça ne m'est jamais venu en tête. Mais je sais que l'histoire de peut-être d'être reconnue par mes pairs, c'est plus fort que moi. Enfin, c'est plus fort pour moi parce qu'il y a possibilité, là, effectivement, d'échanger, de travailler ensemble quand on est reconnu par ses pairs. Certes, bien sûr, il y a le public, mais percer pour qui mais déjà avoir du travail, déjà mettre les choses au travail, déjà réussir à réaliser un projet aujourd'hui, je ne vous dis pas ce que ça demande. Donc, percer, si c'est sorti, peut-être... Ça m'étonnerait quand même. Je ne sais pas. Écoutez la bande sonore. alors, il faut savoir que je ne pensais pas que la danse allait m'amener là où je suis aujourd'hui. Quand j'ai commencé à danser, pour moi, c'était même pas un travail. Quand j'ai commencé à gagner ma vie avec ça, je me suis dit « Ah, mais ça, c'est possible !» et puis j'ai commencé à faire de la photo, j'ai commencé à faire des films publicitaires, on m'appelait pour des campagnes de pub, on m'appelait pour être silhouette dans des films, voilà, des choses comme ça, tout ce qui avait attrait avec le mouvement et le corps. Voilà. Et donc ça a ouvert mon champ. Pour moi, le mouvement était plus important que juste la danse. Et ça m'a permis d'avoir du travail et de continuer à exister dans un milieu donné. C'est comme ça que je me suis retrouvée aussi à dire des textes sur un plateau. Je me suis retrouvée à chanter sur un plateau, même quand je n'avais pas de voix. Hein, attention, c'était assez particulier. Et ça m'a ouvert plein d'univers différents. Je me suis retrouvée à l'Opéra Garnier, je me suis retrouvée à l'Opéra Bastille, je me suis retrouvée en tournée en Asie. Si je savais que mon propre travail... Aller me faire voyager jusqu'au Laos, rencontrer des gens comme Min Tanaka, rencontrer des artistes formidables qui luttent chez eux, ne serait-ce que pour pratiquer leur art. Pour moi, percer, ça ne veut rien dire. Enfin, voilà, c'est en ça que je dis cela. Et puis, les questions des médiums, c'est très vite mélangé aussi. Le texte est devenu une manière aussi de dire du mouvement. Le chant est devenu une manière de dire du souffle. Le son est devenu aussi une manière de dire le geste. Le geste est une manière de dire la présence. La danse ne dit pas que la danse. La danse dit la présence au monde. En fait, tout se mélange et ne se mélange pas n'importe comment. Pour n'importe quoi, voilà.
Et donc, vous êtes au CCNT depuis assez longtemps maintenant, déjà plus d'une dizaine d'années. Comment s'est créé ce travail de longue date avec le CCNT? Vous parliez aussi de l'Opéra Garnier.
Oui.
Et dans le cadre du CCNT, ça fait combien de temps?
Dans le cadre du CCNT, le CCNT a accompagné mes projets depuis 2007, je crois, déjà sous la direction de Bernardo Monté. Mmh. Il y avait déjà un accueil studio, de la programmation, et puis Thomas Lebrun a aussi continué. D'ailleurs, je remercie énormément le CCNT parce que c'est colossal. C'est un partenariat c'est particulier quoi, de continuer à garder un lien. Et quand je fais une proposition d'accepter comme ça, ben moi, ça me touche énormément. Et je trouve, et c'est en ça que je dis dialoguer avec mes pairs. C'est là que c'est de ça dont je parle. C'est-à-dire que pour moi, bien sûr, le public est important et aussi important, mais pouvoir dialoguer avec ses pairs, c'est faire lien, c'est se rassembler, c'est très important pour moi aujourd'hui. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut faire corps ensemble, on travaille sur le corps, hein. Comment on peut faire corps ensemble pour la danse, mais ne pas la dire avec des mots qui sont convenus, qui sont déjà rabâchés, la dire avec nos mots, parce que nos mots n'ont pas encore été entendus. Les mots des danseurs et des chorégraphes, je vous assure, n'ont pas encore été entendus. Voilà.
Parfait. Parfait là.
Donc vous travaillez au sein de la compagnie, et c'est là qu'il va falloir me reprendre sur la prononciation. Est-ce que c'est Iggy. Donc vous travaillez au sein de la compagnie Iggy.
Oui.
Et à votre actif, il y a plus d'une dizaine de pièces et de performances.
Oui.
comment a évolué la danse contemporaine depuis vos débuts ?
La danse contemporaine au sein de la compagnie Guy, vous voulez dire ? Ou son champ
Au sein de la compagnie, comment est-ce qu'elle aurait évolué ? Et peut-être de manière plus générale aussi, on peut faire les deux.
Ouais.
Ouais, c'est ça, quel constat vous faites sur cette évolution ?
Moi, je dirais que la danse contemporaine, pour moi, c'est un endroit très, très particulier. C'est un endroit qui, souvent, rebute les gens. Les gens en ont peur parce que ça dit énormément le corps sous plusieurs aspects. Au sein de la compagnie Iggy, je dirais que je travaille en compagnonnage. Hein, je travaille beaucoup. Enfin, je n'ai pas une structure au sein de laquelle il y a un certain nombre de danseurs avec lesquels je crée des pièces. Je travaille à la demande de la pièce, hein, de l'esprit de la danse, si je peux m'exprimer ainsi. Là, je suis arrivée à un point où je faisais beaucoup de solos, de duos, travailler avec des musiciens. J'adore travailler avec des compositeurs et des musiciens parce que des musiciens qui jouent en live aussi, parce que c'est un travail de l'écoute qui est très particulier pour moi en dehors de la danse. Je ne retrouve pas dans le contexte de la danse avec des chorégraphes le même travail sur l'écoute. Et c'est bien normal, hein, bien sûr. Mais ça a changé mon geste de travailler avec des musiciens. Et je dirais que même les musiciens me verbalisent une reconnaissance. J'ai beaucoup de musiciens qui m'ont dit « Mais tu es musicienne, Sofiatou. Tu es musicienne. » Je leur dis bah « Non, je suis chorégraphe. »« Non, tu es musicienne. Okay. » Donc, cette évolution-là, maintenant, je me dis qu'effectivement, je suis prête à... J'ai très envie de transmettre à des jeunes. J'ai pu avoir l'occasion d'intervenir au CCNT dans le cadre du GESIC. Ça m'a enchantée parce que je leur ai transmis une petite danse de Fabulé. Et je me suis dit « Ah, mais tiens... Là, tu as bien rassemblé toutes tes expériences. Tu peux vraiment transmettre ce dont tu parles quand tu parles de corps qui a une épaisseur et qui n'est pas dans une dimension binaire, mais qui est dans un rapport au monde circulaire. Voilà. Après, dans le champ de la danse en général, la danse contemporaine, je trouve qu'elle est un peu sous-estimée, ça c'est mon point de vue. Il y a eu un essor dans les années 80-90 en France. Et là, il y a des espèces de même si elle est accompagnée, ce que j'entends, je reçois en tant qu'interprète et chorégraphe du public, c'est « Ah mais moi je ne comprends pas trop la danse ». Je comprends plus la danse classique, tout ce qui n'est pas narratif ou tout ce qui sort du cadre d'une représentation du corps. Là, je vais dire un mot qui va fâcher, formaté, tend à faire peur ou à intriguer ou voilà. La manière dont je le vois aujourd'hui, je le vois comme ça. Je vois beaucoup. Les choses, l'événementiel arrivait en force, les comédies musicales arrivent en France, toutes les comédies musicales qui sont en Angleterre arrivent en France et aux États-Unis arrivent en France. Je vois beaucoup ça arriver. Je trouve que c'est bien parce qu'il faut de tout, bien sûr. Mais je trouve que la danse contemporaine est à un endroit où elle réfléchit à un rapport au monde. Dans une multiplicité incroyable. Hein, et je trouve que ça très riche.
Je m'adresse de nouveau à Juliette pour cette réponse avec vos deux regards. Quelles ambitions vous développez avec le CCNT pour la scène locale de danse contemporaine ?
Est-ce que ça t'embête de reformuler la question ? Je ne suis pas sûre d'avoir compris.
Non, bien sûr. On parlait de l'évolution de la danse contemporaine. Au CCNT. Qu'est-ce que vous aimeriez développer avec les artistes locaux de danse contemporaine ?
Comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on souhaite vraiment, c'est les soutenir et leur permettre d'avoir un espace pour exprimer leur art, si je peux me permettre de dire ça. Et de l'autre aussi, de permettre au public qui fréquente le CCN de découvrir autre chose, de découvrir diverses esthétiques, d'autres aspects de la danse contemporaine, puisque c'est dans le projet de Thomas, c'est vraiment l'objectif de mettre en avant cette danse qui est un peu méconnue à certains endroits, je pense. Et donc voilà, cette volonté de mettre en lumière tout ça.
Et donc, premier retour sur scène pour vous, Sofiatou Kosoko. Enfin, premier retour, je vais essayer de reformuler un peu ma question, là, un peu complexe. Est-ce que vous aviez déjà fait des scènes depuis le Covid déjà?
Ah, la question est intéressante. Le Covid. Depuis le Covid. Ah bah non, c'est vrai.
Bon voilà, premier retour du
génial.
Coup, premier retour et première
oui,
création.
Oui.
Du coup, comment est-ce que vous a impacté le Covid par rapport à votre pratique et quelles ouais. sont vos impressions par rapport à ce premier retour déjà aujourd'hui?
Ouais. Le Covid m'impacte encore. C'est pas du passé pour moi. Si ça nous est arrivé, c'est qu'il y a des raisons. Je pense qu'on ne les connaisse pas toutes encore, mais elles vont apparaître. Ça m'impacte encore. Et je pense que, enfin, je pense beaucoup aux jeunes. Je pense aux étudiants. Je pense à toute cette génération qui, pendant 2 ans, a vécu confinée comme ça.
Un grand vide.
Ouais. Et puis à toutes ces personnes qui sont décédées aussi, qui en sont mortes. Et je trouve que l'être humain est bien petit dans ce monde. Je le garde en mémoire, quelque part dans mon corps, ça. Retour, ravi. Ravi d'être sur le plateau. Ravi de partager avec ces deux femmes-là, fabulées. Ravi de pouvoir avoir l'opportunité de continuer grâce au soutien du CCNT, mais aussi de la DRAC, mais aussi d'autres partenaires, comme la Bergerie de Sofin, enfin d'autres partenaires aussi comme le CND qui sont là pour tout ce qui est logistique, mais aussi lieu, espace pour inventer quoi. The power is back.
Et j'ai encore une petite question. On a fait des petites recherches du coup sur vous, Sofiatou. Vous étiez pédagogue. Enfin, vous êtes encore pédagogue. Vous avez voyagé partout dans le monde, notamment en Afrique, dans ouais. des endroits où vous avez pu enseigner à des jeunes élèves ou à des étudiants l'art de la danse contemporaine. Est-ce que vous avez des retours, plutôt un retour d'expérience ou quelque chose qui vous a marqué?
Oui. Oui, j'ai beaucoup enseigné. J'ai été plusieurs fois invitée à l'École des Sables, notamment parce que c'est vraiment un centre qui est dédié à la danse contemporaine, mais pas que la danse contemporaine. Hein. Il s'ouvre à d'autres danses. Il y a aussi les danses traditionnelles. Ils font des partenariats avec des grosses structures aussi occidentales. C'est un outil très fort sur le continent africain de recherche et de réflexion sur la pédagogie et tout ça. Alors, les élèves que j'avais à l'École des Sables, comme c'était vraiment des jeunes qui étaient là pour une formation et que suite à la formation, il y avait quand même, c'était une formation certifiante, ils étaient très en demande. Ils sont très, très avides de savoir. Ils pouvaient m'arriver d'être debout jusqu'à 2h du matin à parler de la danse avec eux. Chose que je n'ai jamais eue ici en France. Déjà, la différence, c'est quand on a peu, on utilise tout ce qu'on a dans ce peu pour en faire quelque chose. Ils ont une manière de prendre l'espace, d'occuper l'espace, qui est complètement différente. Il faut savoir que l'espace géographique aussi sur le continent africain, les espaces sont très larges. Donc, on connaît notre taille minuscule d'humain par rapport aux paysages immenses qui sont autour de nous. Donc, il y a certes une humilité, mais il y a une manière de déployer ces dynamiques énergétiques qui sont très, très fortes et très puissantes chez les jeunes danseurs. Après, ça ne veut pas dire qu'ailleurs, ça n'existe pas. Attention. Ça existe, mais complètement différemment. Ça existe, mais il y a des étapes à franchir pour que la personne puisse se révéler derrière le geste et le mouvement codifié. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont formatées ici et qui ont du mal à... Voilà, il faut, faut franchir des étapes, il faut dire ça comme ça. Après, c'est très riche hein, de pouvoir s'adresser à un public de jeunes Africains, que ce soit des... Et puis, quand je suis en Afrique, quand j'enseigne en anglais et en français. Il y en a qui parlent espagnol. Il y a toute l'histoire de la colonisation qui apparaît comme ça. En même temps, c'est facilitateur. Ouais. Et en même temps, c'est compliqué parce que j'enseigne pas que dans une seule langue. Quoi. Voilà. Quand j'enseigne ailleurs, que ce soit des ateliers en France, dans des cadres différents, parce que j'ai beaucoup travaillé aussi avec les rencontres internationales de Saint-Denis dans le 93, les différentes couches sociales que j'ai pu rencontrer en tant que pédagogue m'ont fait faire un retour justement sur mon fameux professeur dont je parlais tout à l'heure. Je me suis dit, ah mais c'est quelque chose que j'ai vraiment reçu en héritage, ça. La capacité à m'adresser à différents corps, différents âges, voilà.
Et vous parliez de diversifier les publics. Si des étudiants qui nous écoutent souhaitent pratiquer la danse avec le CCNT, c'est possible. Il me semble qu'il y a quelques stages qui sont proposés, et notamment un stage pour les détenteurs du PCE qui est proposé en février avec Élodie Cotet. De quoi il est question dans ce stage et quelle offre est-ce qu'il y a pour les étudiants au CCNT ?
Alors, ce qui est super avec ce stage, c'est donc c'est un partenariat avec l'Université de Tours. Et donc, il a lieu le 1er février 2025. Et il est mené, donc, comme tu l'as dit, par Élodie Cotet, qui est une interprète de Thomas Lebrun, dans sa prochaine création qui s'appelle D'amour, qui sera créée en janvier. Et Élodie traversera avec les participants et les participantes de la matière chorégraphique qu'elle a travaillée au cours de la création de la pièce avec les jeunes. Et ce qui est bien, c'est que ce stage est gratuit pour tous les détenteurs et les détentrices du pass culturel étudiant.
Du passeport PCE, culturel étudiant.
Passeport, oui, ouais, c'est ça, passeport. Les inscriptions se font à travers le service culturel de la fac. Et c'est vraiment ce qu'on met en avant pour les étudiants au CCNT, mais pas que, puisque... Depuis, je crois que c'est la deuxième saison où on a mis en place un tarif particulier assez réduit, donc de 5 euros la place de spectacle, à partir du moment où vous êtes détenteur du passeport culturel étudiant, du pass culture de IEPS, mais aussi pour les élèves du conservatoire de Tours. Et donc tous les spectacles sont proposés à ce tarif à partir du moment où
on a le PCE.
Voilà.
Ben, merci. On finit sur une belle touche, cette émission. Merci à Sophia Toukosoko et Juliette Marguerite du CCNT de nous avoir permis de vous poser ces questions-là aujourd'hui. Pouvez-vous nous rappeler la programmation du coup du spot création
du spot 10, région, pardon.
Du spot du création. Spot ah ouais, mais grave, je ne l'ai même pas marqué. N'importe quoi, du 10 au 18 décembre.
C'est ça. Donc le 10 et le 11, on accueille Raphaël Cotin avec sa création qui s'appelle L'éloge des possibles à 20h au CCNT. On enchaîne avec Sophia Toukosoko et sa création aussi de Fabulé le 13 et 14 décembre à 20h. Et ces deux pièces ont lieu au CCNT. Et le spot de cette année sera clôturé par Johanna Lévy à la Pléiade avec son solo Jasmin.
Merci beaucoup pour ces échanges très intéressants.
Merci à vous de nous avoir reçus.
Donc, le podcast de l'émission sera retrouvé sur radiocampustour.com et nous vous souhaitons une agréable soirée.
Au revoir.
Bonne fin de journée.